Chapitre 47. Durant la première nuit qu'il passa au sommet du rocher des affamés, Daeman dut subir le froid et l'humidité, mais pas une fois il ne vit les Voynix faire mine de monter à l'assaut. Idem pour la deuxième nuit. Lorsque vint la troisième, tous les rescapés souffraient de la faim, d'un rhume, d'une grippe ou d'un début de pneumonie, sans parler de leurs blessures. Sa main gauche les lançait en permanence là où le Calibani lui avait tranché deux doigts à Paricrater. Mais les Voynix ne se montraient toujours pas. Ada avait repris conscience le lendemain de son arrivée. Elle avait reçu de multiples blessures, un bataillon d'hématomes et d'estafilades, un poignet cassé, deux côtes cassées sur le flanc gauche, mais les plus graves, une commotion et un début d'intoxication, n'avaient pas eu raison d'elle. À son réveil, elle souffrait d'une migraine carabinée, d'une méchante toux et de trous de mémoire, mais elle avait gardé la tête sur les épaules. S'exprimant d'une voix neutre, elle récita la liste des amis dont elle ignorait encore le sort, ne réagissant que du regard lorsque Gréogie comblait ses souvenirs parcellaires.
« Bétir, »
dit-elle en étouffant une quinte de toux,
« mort. Rayman,
mort.
Aimé,
morte, en même temps que lui.
Péane,
morte.
Un rocher lui a défoncé le thorax et elle s'est éteinte ici sur le rocher des affamés.
Salas,
morte.
Oléo,
morte.
La litanie se poursuivit un long moment, une quarantaine de noms en tout, puis Ada s'effondra sur le sac à dos crasseux qui lui servait d'oreiller. Sous les striures de sang et de suie, son visage était blanc comme un linge. Daeman était agenouillé auprès d'elle, portant son sac à dos dans lequel l'œuf de ses tébos brillait à l'abri des regards. Il s'éclaircit la gorge.
Quelques-uns de nos éléments les plus importants ont survécu, Ada. Bowman est ici, ainsi que Kaman. C'était l'un des premiers disciples d'Odysseus, et il a siglé tout ce qu'il a pu trouver en matière d'histoire militaire. Laman a perdu quatre doigts de la main droite en défendant Ardis, mais il est toujours d'attaque. Loès et Stoman sont encore là, eux aussi, ainsi que certains des émissaires que j'avais recrutés, Cole, Oko, Ella et Edid. Oh, et Tom et Cyrus s'en sont tirés.
Bien,
fit Ada en toussant. Tom et Cyrus étaient désormais leurs meilleurs médecins.
Malheureusement, nous n'avons pu récupérer ni la pharmacie, ni le matériel médical, intervint Gréogie.
Qu'est-ce que vous avez pu sauver ?
Demanda Ada. Gréogie haussa les épaules.
Les armes que nous avions sur nous. Et nous serons bientôt à court de fléchettes. Les vêtements que nous portions. Quelques toiles goudronnées et les couvertures sous lesquelles nous nous abritons durant la nuit.
Êtes-vous retourné à Ardis pour enterrer nos morts ?
Quoique éraillée, la voix d'Ada demeurait forte et posée. Après avoir jeté un coup d'œil à Daeman, Gréogie détourna la tête, portant son regard par-delà le sommet rocheux qui leur servait de refuge.
« Impossible, » dit-il d'une voix nouée par l'émotion. « On a essayé. Les Voynix nous guettent. Ils nous attaquent. »
« Avez-vous pu accéder aux réserves du château d'Ardis ?»
insista la blessée. Gréogie secoua la tête.
« Il ne reste plus rien. C'est fini, Ada. Fini. »
Ada se contenta d'acquiescer. Deux millénaires d'histoire et de fierté familiale, réduits en cendres et perdus pour toujours. Cependant, ce n'était pas Ardis qui la préoccupait au premier chef, mais bien ses compagnons survivants, frigorifiés et naufragés sur ce misérable rocher des affamés.
« Comment procédez-vous pour ce qui est de l'eau et de la nourriture ?»«
Nous collectons l'eau de pluie grâce aux toiles goudronnées, et le Sony nous a permis de faire quelques expéditions de chasse, »
dit Gréogie, visiblement ravi de passer à un sujet moins macabre.
Le plus souvent, on se contente de lapins, mais hier soir, on a levé un élan. On n'a pas fini de lui retirer toutes ses fléchettes.
Pourquoi les Voynix ne nous ont-ils pas achevés ?
Demanda Ada d'un air vaguement curieux.
Ça, c'est une bonne question,
répliqua Daeman. Il avait sa théorie là-dessus, mais il était encore trop tôt pour en faire part aux autres.
Ils n'ont sûrement pas peur de nous, dit Gréogie. Il doit y avoir 2 ou 3 000 de ces saletés dans les parages, et nos munitions ne nous permettraient d'en tuer que quelques centaines. Ils pourraient grimper jusqu'ici sans problème, mais ils ne l'ont pas fait pour le moment.
Vous avez essayé le pavillon Fax ?
Dit Ada. Ce n'était pas une question.
Les Voynix nous y ont tendu une embuscade, répondit Gréogi.
Il plissa les yeux pour contempler le ciel azur. C'était leur première journée de soleil. Et tous faisaient sécher vêtements et couvertures, les étalant sur la roche comme des fanions et des banderoles. Mais la température demeurait glaciale, bien plus que celle auxquelles les habitants d'Ardis étaient accoutumés, et ils étaient tous parcourus de frissons.
Nous avons fait des essais, déclara Daiman. Le Sony peut accueillir 12 passagers, 2 par couchette, mais pas plus, sinon l'IA refuse de décoller.
Il vole comme une casserole, mais il vole.
Combien d'entre nous ont survécu, avez-vous dit ?
Demanda Ada.
50 ?
55 en comptant Daiman, corrigea Gréogi. Dont 9, toi incluse, qui étaient trop blessés pour se déplacer tout seul.
Il nous reste donc 8 invalides,
répliqua-t-elle avec fermeté.
Il faudra donc faire 5 allers-retours pour évacuer tout le monde, en supposant que les Voynix ne donnent pas l'assaut à ce moment-là, et en supposant aussi que nous puissions aller quelque part.
Oui, en supposant, répondit Gréogi.
Lorsqu'Ada se fut rendormie, d'un sommeil qui n'avait rien à voir avec le coma dont elle venait d'émerger, leur assura Tom, Daiman attrapa son sac à dos, le tenant à bout de bras, et se dirigea vers le rebord de la falaise. Il distinguait nettement les Voynix en contrebas, leurs bosses de cuir tanné et leur corps acéphale se mouvant derrière les branches effeuillées. De temps à autre, un petit groupe de créatures traversait le pré qui s'étendait au sud du rocher des affamés, apparemment dans un but bien précis. Aucune d'elles ne regardait vers le haut. Gréogi, Bowman et Edith le rejoignirent, sans doute poussés par la curiosité.
« Tu as envie de faire le grand saut ?» demanda Bowman.
« Non, mais je me demandais si vous n'auriez pas de la corde. Assez pour me faire descendre juste hors de portée des Voynix. »
« Nous en avons une de 30 mètres de long, » répondit Gréogi. « Tu te retrouverais 20 à 25 mètres au-dessus de ces saloperies, ce qui ne les ralentirait nullement si elles décidaient de grimper jusqu'à toi. Pourquoi diable as-tu envie d'aller narguer les Voynix ?»
Daiman s'accroupit, posa le sac sur un rocher et en sortit l'œuf de ses ébauches. Les autres s'accroupirent à leur tour. Anticipant la question qui leur brûlait les lèvres, il leur dit où il l'avait trouvé.
Mais pourquoi ?
Demanda Edith. Daiman haussa les épaules.
Une impulsion du genre. Sur le moment, ça m'a paru la chose à faire.
Je connais ce genre d'impulsion. Je finis toujours par les regretter.
Daiman considéra Edith. Brune, plutôt petite, elle avait sans doute fêté ses 80. Il était difficile d'en être sûr vu le rajeunissement dont tous bénéficiaient naguère à l'infirmerie, mais chez les humains à l'ancienne, les aînés avaient toujours un peu plus d'assurance que les cadets. Daiman logea au creux du rocher l'œuf argenté qui émettait une légère pulsation lumineuse et dit « Touchez-le ». Bowman fut le premier à s'exécuter. L'homme blond plaqua sa main contre la coque incurvée comme pour profiter de la chaleur qu'elle dégageait et la retira aussitôt. On aurait dit qu'il avait reçu une décharge électrique.
« Qu'est-ce que c'est que ce truc ?»«
Ouais, » fit Daiman. « J'ai la même sensation quand je le touche. Comme s'il absorbait une partie de mon énergie vitale, comme s'il me pompait le cœur. Ou l'âme. »
Gréogi et Edith imitèrent leurs camarades avec les mêmes résultats. Tous s'écartèrent de l'œuf.
« Détruis cette saleté, »
suggéra Edith.
« Et si cet ébauche débarquait pour récupérer son œuf ?» lança Gréogi. « Les oiseaux femelles réagissent comme ça quand on leur vole leur progéniture. » Elles en font une affaire personnelle. Et dans le cas présent, la maman est une gigantesque cervelle pourvue d'yeux jaunes et de douzaines de mains.
J'y avais pensé, dit Daiman. Il n'alla pas plus loin.
Et ?
Fit Edith. Daiman ne l'avait côtoyé que quelques mois après son arrivée à Ardis, et elle lui avait toujours semblé compétente et pleine de ressources. Une des raisons pour lesquelles il l'avait recrutée comme émissaire pour alerter les autres communautés.
« Veux-tu que je le détruise ?»
poursuivit-elle en se levant pour enfiler des gants de cuir.
« Je vais lancer ce truc le plus loin possible et avec un peu de peau, il atterrira sur un Voynix. »
Daiman se mordilla la lèvre.
« Il n'est pas question que cet œuf éclose sur le rocher des affamés, »
déclara Bowman qui braquait déjà son arbalète sur l'œuf en question.
« Vu la description que tu nous as faite de Paris Cratère, même un bébé cet ébauche risque de nous faire la peau à tous.
Attendez,
dit Daeman. Il n'est pas encore éclos. Peut-être que la température qui règne ici n'est pas assez basse pour le tuer, pour le rendre non viable. Mais j'ai l'impression qu'elle ralentit sa gestation, son développement, enfin. Peu importe, j'ignore le terme exact. Avant de le détruire, je voudrais me livrer à une petite expérience.
Ils prirent le Sony. Gréogy pilotait. Bowman et Edith se tenaient dans les couchettes arrière, le fusil à fléchette prêt à tirer. Le champ de force était désactivé. Les Voynix s'agitaient dans les ombres à la lisière de la forêt, à moins de 100 mètres de là. Le Sony flottait 30 mètres au-dessus du pré, hors de portée des créatures.
« Tu es sûr de ton coup ?» demanda Gréogy. « Ils sont plus rapides que nous !»
Doutant de pouvoir trouver sa voie, Daeman opina en silence. Le Sony piqua. Daeman sauta. Le Sony repartit à la verticale, comme un ascenseur discoïdal. Daeman portait en bandoulière un fusil à fléchette chargé, mais ce fut le sac à dos qui l'attrapa, en sortant partiellement l'œuf de ses tébos, qu'il veilla à ne pas toucher de ses mains nues. Même à la lumière du jour, il irradiait d'une lueur laiteuse. Comme porteur d'une offrande, Daeman se dirigea vers l'extrémité du pré où se tapissaient les Voynix. De toute évidence, ceux-ci l'observaient avec les capteurs infrarouges logés dans leur torse métallique. Plusieurs d'entre eux pivotèrent sur leurs jambes pour le conserver dans leur champ de perception. Certains émergèrent des ombres et vinrent se planter au bord du pré. Daeman leva les yeux. Le Sony flottait 20 mètres au-dessus de sa tête, Bowman et Edith étaient prêts à ouvrir le feu, mais ils savaient qu'un Voynix atteignait une vitesse de pointe de 100 km à l'heure. Il serait sur lui avant que le Sony ait eu le temps de descendre, et si ses saletés étaient assez nombreuses, les armes de ses camarades ne suffiraient pas à le sauver. Daeman s'avança en brandissant l'œuf luminescent niché dans son sac à dos, comme s'il offrait un cadeau de vin à un ami. À un moment donné, l'œuf brilla plus fort et bougea un peu. Daeman faillit le lâcher sous l'effet de la surprise, mais il se retint à temps et poursuivit sa route. Il était tellement près des Voynix qu'il aurait juré sentir leur odeur de rouille et de vieux cuir. Ce ne fut pas sans une certaine honte qu'il constata que ses jambes commençaient à flageoler.
« J'aurais pu imaginer une méthode moins dangereuse, » se dit-il.
Mais il n'en existait aucune. Vu l'état de la majorité de ses camarades, sans parler des risques de famine et de déshydratation, le temps pressait. Il était à moins de 15 mètres du premier groupe de Voynix qui comptait une trentaine de créatures. Daeman leva l'œuf de ses tébos comme un talisman et s'avança. À 10 mètres, les Voynix reculaient parmi les arbres. Daeman pressa le pas presque à en courir. Les Voynix s'écartaient de tous côtés. Il redoutait de trébucher et de casser l'œuf, il le voyait déjà se lézarder de partout et cracher un cétébos miniature qui se jetait sur son visage pour s'y agripper de toutes ses petites mains, mais il se força à trottiner vers les Voynix en déroute. Les créatures se mirent à quatre pattes pour courir plus vite. Elles étaient des centaines à fuir dans toutes les directions, évoquant un troupeau d'herbivores affolés par des prédateurs préhistoriques. Et Daeman courut lui aussi, courut à en perdre haleine. Il tomba à genoux, étreignit le sac à dos, sentit l'œuf de Cétébos se mouvoir, le sentit absorber une partie de son énergie vitale, et il l'écarta vivement, le posa par terre comme s'il s'agissait d'un produit toxique, ce qu'il était d'ailleurs. Gréogy fit atterrir le Sony.
« Mon Dieu !» fit-il. « Mon Dieu !»
Daeman opina.
« Ramène-moi au pied du rocher. »
J'attendrai là-bas avec l'œuf pendant que tu feras descendre tous ceux qui sont assez valides pour marcher jusqu'au pavillon Fax. Je prendrai leur tête. Tu nous suivras avec les blessés et les invalides.
Comment tu...
Edith laissa sa phrase inachevée. Elle secoua la tête.
Ouais, fit Daeman. Je me suis rappelé les Voynix pris dans la glace à Paris-Cratère. Ils ont été piégés alors qu'ils fuyaient ces Tébos.
Il s'assit sur le rebord du Sony, le sac sur les genoux, tandis qu'il regagnait le pied de la falaise en volant à 2 mètres d'altitude. On ne voyait plus un Voynix sous les arbres ni dans le pré.
« Où allons-nous nous faxer ?»
demanda Bowman.
« Je ne sais pas, » répondit Daeman, qui se sentait mort de fatigue. « J'y réfléchirai pendant le trajet. »